première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
C'est toute une série de photographies qui nous donne à voir, qui nous donne à voir nos portraits, à mon épouse et à moi-même. Et puis alors une série de photos qui en fait rendent compte, essentiellement d'ailleurs dans ce cas-ci, de mon atelier, mais avec une vue là quand même à droite, à l'extrême droite, qui reprend l'enfilade des murs de l'atelier de mon épouse, de Juliette Rousseff. Alors, ce qui a intéressé essentiellement Caroline de Thiers, qui est en fait la photographe, c'était de rendre compte d'une ambiance, de voir finalement l'atelier en tant qu'œuvre, finalement. Et aussi de respecter les souhaits, notamment de mon épouse, qui ne voulait pas être photographiée de face, ce qui fait qu'en fait, elle a trouvé ce moyen à travers le miroir de rendre compte de son visage sans qu'elle soit de face.
Pouvez-vous décrire l'image ?
En fait, vous allez voir plus tard dans l'exposition que ça fait écho à toute une série de peintures que j'ai faites d'après Alice, au Pays des Merveilles et au-delà du miroir.
Vandeloise Rousseff à la Beuverie à Liège, jusqu'au 1er avril.
C'est moi, Alice.
Avec Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, Sylvie Cannon et Isabelle Neuret. Et vous dites « atelier en tant qu'œuvre ».
Oui. Disons que ça, c'est vraiment mon point de vue. Je ne sais pas si Juliette Rousseff partage exactement le mien. Mais pour moi, tout mon atelier, c'est une seule œuvre qui, en fait, reprend en compte les différentes facettes de qui je suis ou qui je crois être. Et c'est dans ce cadre-là que, dans la mesure où il y a une multiplicité d'aspects, à la fois par les objets, les œuvres de différentes périodes qui vont dans différents sens, qu'en fait, pour moi, ça reflète, qui je suis.
D'ailleurs, vous allez voir le mur qu'il a reproduit,
oui.
Non pas reproduit, réinventé.
Ici
à droite dans l'exposition et qui réinvente l'atelier.
Oui.
Voilà.
D'après mon souvenir, il y a aussi des livres dans l'atelier.
Oui, disons qu'il y a toute une série de livres qui me servent essentiellement comme documents pour réaliser des peintures. Donc ce sont essentiellement des livres de photographie, mais également quand même d'histoire de l'art, ceux que je ne sais plus mettre chez moi et qui éventuellement peuvent me concerner, plus évidemment tous les documents concernant mon travail, quoi.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Génicaud. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Tel que ça apparaît ici à l'entrée de votre exposition,
oui,
à la Beauverie,
mm-hmm,
Guy Vandeloise, ce mur est-il un mur de documents ou autre chose?
Mais pour moi, c'est déjà une œuvre en soi.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Les places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez voir ça, Kim.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, tentum, stélie.
Le Monde Invisible.
L'exposition. L'exposition commence ici avec un. Ça fait, attendez, 6 œuvres que j'ai réalisées et qui en fait partent essentiellement de fleurs. Les fleurs m'ont toujours passionné, en fait. Elles m'aident à vivre, si je puis dire, dans tous les sens du terme, depuis mon enfance. Dans ce contexte-là, il y a un travail qui est important puisque c'est mon ange gardien. Et mon ange gardien procède d'un rêve qui m'est advenu et où, en fait, j'étais dans un lieu et je me trompais de chemin. Et je me rends compte que je me trompe de chemin, mais je continue. Et m'étant trompé de chemin, je rencontre une forme qui en fait s'avère être mon ange gardien, qui m'appelle par mon nom. Ce qui m'a amené à penser qu'il était peut-être plausible qu'il faille de se tromper de chemin pour en fait trouver cette entité qui peut éventuellement nous aider, nous faire vivre des choses essentielles.
Vous parlez de fleurs ?
Oui.
Je crois savoir que les jardins sont des choses qui comptent pour vous deux.
Surtout pour lui. Enfin, moi, j'aime bien le jardin, mais pour en profiter, et lui pour le faire.
Vandeloise Rousseff à la Beuverie à Liège.
Oh, c'est un jardin un peu comme lui, qui est à la fois très organisé, très structuré, et en même temps qui a l'air complètement sauvage. Voilà, avec toutes sortes de plantes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Alors, avec des tracés, des chemins un peu sinueux que j'aime bien.
Jardin de Turée ?
Oui, ça ressemble à cela, oui. De fait, oui. Mais ce sont des jardins d'aventure, hein. Qui vous permettent vraiment l'opposé des jardins à la française, que j'admire, hein, bien sûr. Mais ce sont des jardins qui vous permettent d'être en permanence en découverte, quoi. Donc d'être surpris. Et pour moi, c'est justement ces moments de surprise qui sont essentiels, parce qu'ils nous sortent de notre train-train habituel, de nos pensées, de notre vouloir, de nos émotions. Et il nous faut voir des choses, voir, ce qui pour moi est essentiel. Le voir dans le regarder, si vous voulez.
Avec Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, Sylvie Cannon et Isabelle Neuret. Isabelle Neuret, ce jardin que vous décrivez,
il me semble que le jardin est vraiment une composition de Guy Vandeloise, un peu à l'image aussi de son atelier. Donc c'est vraiment des extraits de rencontres que Guy a avec les choses animées ou inanimées qui sont un peu condensées dans cet espace, un peu mystérieux et dans lequel on sent que le sens essaye de jaillir, quoi.
Et les fleurs, vous avez dit, les fleurs comptent pour moi.
En fait, elles m'ont aidé à vivre dès mes 5-6 ans, quoi. C'était la guerre. Et le fait, donc, une ambiance particulièrement sinistre à tout niveau, même si un enfant ne conscientise pas tout, évidemment. Et en fait, de voir apparaître des couleurs de lumière et des formes tout infinies, me faisait croire en la vie. Et c'est dans ce sens-là qu'en fait, elles m'ont véritablement porté jusqu'à présent.
Est-ce l'idée de fleurs ? Nous sommes dans le monde de Platon, attention. Vous n'aimez pas ?
Je n'aime pas. Je n'aime pas parce qu'en fait, il donne la priorité à la pensée.
Et vous, c'est quoi ?
Le mot à trouver.
Allez, j'essaie de te faire trouver comme à l'école.
La sensation, oui. Oui, oui. Tout à fait. Oui.
Alors nous sommes dans la poésie.
Oui, tout à fait. C'est ça qui effectivement m'importe, oui. Effectivement. Étant entendu qu'au cours des années, cette sensation se teinte différemment, s'affine, je puis l'espérer du moins.
Je vois de l'écriture.
De l'écriture, oui. Ah oui.
L'un, c'est l'autre.
Alors, l'un, c'est l'autre. C'est en fait le projet que j'avais réalisé d'une écriture qui figure sur l'un des buildings de la ville. Et en fait, ce qui m'importait, c'était de mettre en relation, autant par l'écriture que par les couleurs d'ailleurs, les différentes données qu'on oppose naturellement. L'un c'est l'autre, l'un n'est pas l'autre, mais l'un c'est l'autre, c'est évidemment tout à fait différent. J'entends par là qu'il y a essentiellement, composante humaine, qui en fait fait que tout un chacun peut se retrouver dans l'autre. En fait, nous ne sommes pas essentiellement distincts, nous sommes au contraire tout et tous dans un rapport essentiel. Mais il est évident que chacun, chacune, nous avons nos particularités qui peuvent nous conduire, hélas, à des oppositions particulièrement graves, mais il n'empêche que le fond est là, commun. Et c'est dans ce cadre qu'en fait j'ai employé au niveau des couleurs complémentaires, qui en fait au centre reconstituent le gris moyen qui est d'harmonie.
Et ensuite, de part et d'autre, c'est quelle couleur ?
Le bleu et l'orange, qui sont deux couleurs effectivement complémentaires, qui comme toutes les couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur le cercle chromatique. Et c'est ça qui m'intéresse justement, c'est cette opposition-là, qui en fait trouve son point de rencontre, son point d'amour même, en son centre.
Pour prolonger la promenade dans le parc de la Beauverie, nous pouvons rentrer dans l'exposition Vandeloise-Rousseff à la Beauverie.
Et ce parc, vous l'avez vu, il est à l'arrière et c'est un jardin à la française.
Il l'entoure, hein. Non, ce n'est pas un jardin français. Puis, disons qu'il est plus...
Il est plus ordonné.
Il est plus ordonné, évidemment, que ne l'est mon jardin. Alors là, ça, c'est une certitude. Oui. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus de rapport au jardin français. Oui.
Mais d'accord. Ici, ce qui nous avait interpellé, c'était la roseraie.
La roseraie, oui.
La rose qui parle en soi, peu importe comment elle s'ordonne les unes avec les autres.
On est chez Rainer Maria Rilke, là, avec la rose, n'est-ce pas ? Juliette Rousseff.
C'est un travail sur la musique de l'espace, en fait. Je sais que l'espace commence à chanter depuis que les quantiques ont découvert les ondes gravitationnelles. Enfin, moi, je m'intéresse à tout ça, non pas en scientifique, mais en poésie, quoi. Et alors, ça me frappe beaucoup que l'espace soit aussi une vibration. Et donc, j'ai essayé de trouver une forme qui correspondait à, vaguement à un instrument de musique, mais qui en fait est une forme géométrique tirée d'un livre, là aussi. Et j'ai essayé de traduire cette musique pythagoricienne, mathématicienne. Et puis alors, comme c'est dans l'espace, j'ai ajouté des ailes. Voilà.
Une grande toile avec une arche à l'intérieur, une grande toile qui tombe comme ça sur le mur, puisque Juliette n'encadre pas cette toile, mais les laisse volantes. Et justement, cet envol est poursuivi par trois petites toiles et tissus qui sont brodés, qui veulent représenter des lyres qui vibrent par la texture de cette broderie de soie sur cette toile, quoi. C'est installé comme une envolée, c'est très lyrique.
La partie centrale de l'exposition, et c'est une partie qu'on a dû se partager équitablement et harmonieusement, on a essayé. Et donc moi j'ai toute la partie intérieure et Guy Vandeloise a toute la partie parcours extérieur, voilà. Donc moi, je suis dans mon intériorité, il est dans son espace.
Alors, on parle de corps sur la balançoire.
Ah oui, d'accord, oui. Oui,
si donc, on se réfère à l'historien de l'art que vous êtes, on pense à Fragonard et on pense aux balançoires.
La façon d'envisager la femme sur sa balançoire de Fragonard est tout à fait différente de la manière dont je l'envisage. Alors, vous me posez un singulier problème parce qu'en fait, il s'agit là d'une de mes dernières peintures et qu'en fait, je ne suis pas sûr de savoir exactement ce qu'elle donne à voir. Parce que, de plus en plus, certes, je pars évidemment d'images ou de sensations, etc., vécu avec des images ou avec la réalité qui me concerne, mais en fait, de plus en plus, je demande à la peinture de me dire ce que je suis en train de vivre au moment où je la peins. Et dans ce sens-là, donner une explication de cette œuvre, je n'ai vraiment pas, en tous les cas, dans l'ordre d'une sensualité à la Fragueur. De toute façon, la dame se met de telle manière, est habillée quand même de telle manière à ce qu'on soit un voyeur, alors qu'en fait, dans le cadre de cette peinture, ce n'est véritablement pas le cas. Mais cette femme, sur sa balançoire, est à mon sentiment, à présent, en train, dans toute sa corporalité, de sortir d'un espace dans lequel elle se trouvait enfermée, et qui est assez sinistre finalement, pour rejoindre un espace qui est de participation, dans lequel, par les éléments qui figurent derrière elle, auquel elle va participer, et qui est en fait là un espace, je vais dire, de lumière et de poésie.
Serait-ce une métaphore ?
Oh, je pense, oui.
La vérité est nue. Oui. La femme est nue.
Ah oui, hein, ça ne me déplaît pas, absolument, oui, tout à fait. Vous voyez, je finirai finalement par comprendre le sens de ma peinture.
Guy Vandeloise.
On a le sentiment, la sensation de ne plus exister, si vous voulez.
Voilà, j'ai voulu ici que ça soit fermé et que ça soit un peu saturé pour qu'on se sente dans une salle des miroirs. Et donc j'ai commencé... Non, la première série, c'est celle qui est derrière vous ici et qui s'appelait « Les miroirs de l'âme ». En fait, ça s'est passé comme ceci. J'ai décrit des parcours dans des formes que j'ai reprises. Ça, c'est une coquille d'huître vide. Ça, c'est un vase. Et je voulais faire des parcours intérieurs de l'âme. Après, on passera aux âmes. Et je vous expliquerai comment je les conçois. Mais voilà. Et donc, j'avais fini. J'ai pris mon petit appareil. J'ai voulu prendre deux photos d'étoiles. Et qu'ai-je vu apparaître, à cause du néon, le reflet de ma tête, vu de dos. Et ça m'a intéressée. Et donc, la peinture était finie, mais j'ai rajouté les têtes que vous voyez là au fond des récipients. Et je me suis dit que c'était le miroir de mon âme. Et donc, de ça... J'ai embranché sur Alice au pays des merveilles et est venue cette série ici où Alice essaye d'entrer dans le miroir. Vous voyez, on voit d'abord sa main qui essaye de repousser le miroir, puis elle est en train de passer et on ne voit plus guère que son épaule qui apparaît. Et à la fin...
On a été, je ne dirais pas que, mais on a été la main par laquelle quelque chose est passé, on est traversé. Un point, c'est tout. Et puis alors, il nous faut, par après, comprendre, soit par nous-mêmes, soit par ce que d'autres personnes peuvent dire, comme vous, par exemple, pour en fait commencer à entrer dans ce qui s'est passé, et qui est en nous, évidemment, et qui est même essentiel. Et c'est dans ce sens que, pour moi, la peinture, la réalisation reste essentielle parce qu'en fait, elle nous fait aller de plus en plus loin dans qui nous sommes et que nous ne savons point.
Elle est passée au-delà du miroir et on ne voit plus sa tête, que non plus de dos, mais de face. Elle nous regarde et elle voit l'autre réalité. Voilà.
Elle te fait suivre. La peinture te fait sur la création différents chemins, différentes facettes de ton
différentes
moi, quoi,
facettes
vraiment.
De mon être, oui. Oui, tout à fait, tout à fait.
Oui, c'est vrai.
Mais qu'à faire.
Et pensez-vous, dans ce même ordre d'idées, que c'est le spectateur qui fait le tableau ?
Ah, oui, ça c'est certain. Ça c'est certain. En fait, je ne fais là que reprendre le point de vue de Baudelaire, d'abord, Matisse et Marcel Duchamp. Marcel Duchamp qui allait jusqu'à dire qu'en fin de compte, finalement, une fois que son œuvre était terminée, tout le monde avait le droit de l'interpréter à sa façon. C'est-à-dire qu'il devient, alors le spectateur devient, non pas un être passif, mais en fait un créateur.
Mais en fait, c'est ce qui se passe aussi maintenant et en science, hein, et tous les savants vous disent que c'est le chercheur, le regard du chercheur qui crée le phénomène. Donc, c'est vraiment, oui, toute la création qui est concernée par ça. La recherche, la création, l'aventure. On regarde et on trouve, parfois.
Mais c'est donner un pouvoir au regardeur, quoi.
Oui.
Ah oui.
Et ça, c'est très valorisant.
Ben oui,
le
c'est
regard
essentiel.
Est créateur.
Oui, parce que sinon, c'est l'attitude méprisante. Moi, le génie, c'est insupportable, hein, ces choses-là. J'ai fait cela, waouh, hein, je suis investi, bon, etc. Alors que dans ce cas qui nous concerne, ce n'est pas du tout cela. C'est en fait, finalement, faire en sorte, certes, que nous nous percevions mieux dans ce que nous sommes, mais c'est en même temps amener d'autres, l'autre, à se révéler à lui-même.
Mais ce qui est vraiment fascinant, je trouve, pour le, ce qu'on vient d'appeler le regardeur, celui qui va redonner une autre vie à l'œuvre, c'est lorsqu'on connaît l'artiste qui l'a produit et qu'on rejoint sa pensée, ben on a l'impression de participer à la même à la création elle-même. D'autant plus quand on a cette sensibilité commune avec le créateur, c'est quand même
oui,
c'est
oui,
quand même très.
Mais en fait, c'est de l'ordre de l'amour, hein, tout ça.
Oui.
Au sens vrai du terme.
L'agapé.
Oui, absolument. Absolument. Oui.
L'amour bouddhique.
Oui, absolument, oui. Absolument. Depuis le début du XXIe siècle, j'en ai 32 séries différentes. C'est-à-dire qu'il n'y en a que quelques-unes que j'ai pu présenter. Alors, dans un premier temps, sur ce grand mur, vous avez essentiellement ce que j'appelle des ateliers des géométries. Les géométries, pourquoi ? Eh bien, parce qu'en fait, depuis ma tendre enfance, comme on dit, je suis fasciné, je reste fasciné par les livres de géométrie descriptive, par les images. Et alors, ce qui, comment dire, me concerne là-dedans, c'est qu'en fait, c'est la science de l'espace, quoi. Et la science de l'espace me concerne fort dans la mesure où, depuis bien longtemps, il m'importe d'établir un rapport entre l'espace-temps dans lequel nous nous trouvons et le non-espace-temps. Et par le biais de ces forme géométrique, je pense pouvoir y arriver en faisant en sorte, d'autre part, que les plans se mettent de telle manière qu'on ne sait plus exactement ce qui est devant et ce qui est derrière. Alors, en ce qui concerne les ateliers, c'est en fait des images, entre guillemets, qui partent de mon atelier. Donc, il y a des objets qui s'y réfèrent, des éléments comme une fenêtre, une plante, que sais-je. Et alors, là-dedans, il y a tout ce qui se trouve dans mon atelier et que je vois incidemment, par le biais de photographies, par le biais d'une révélation, d'une tache de lumière, etc. Et c'est la relation entre ces deux univers-là que j'essaie de mettre en harmonie pour en fait, en fin de compte, une fois de plus, révéler toutes les facettes de l'être en général. En plus, je reviens à la notion de non-espace-temps qui m'importe fondamentalement. Toutes ces œuvres sont faites de telle manière que, à la fois, vous avez donc l'espace de mon atelier avec les différents objets qui m'ont incité à faire la peinture et qui sont mises en relation avec le non-espace-temps. Le non-espace-temps étant en fait ici indiqué par le fait que les peintures à l'huile, à l'alkyd, que sais-je, sont en fait réalisées sur une toile que j'ai préparée moi-même et que j'ai rendue particulière par la manière dont j'ai peint le fond blanc avec le gesso.
Mais le non-espace-temps, c'est quoi ?
Le non-espace-temps, les univers qui nous entourent et dans lesquels, je puis supposer, tout se retrouve à un certain moment. En fait, pour moi, tout est dans tout. Une série de peintures ou dessins qui ont été réalisés à partir d'images reprise dans les différents journaux de footballeurs. Alors, ça a déconcerté pas mal de personnes, ce qui m'a surpris, puisqu'en fait, ça voulait déjà dire que, certes, le football, c'est une institution, mais à partir du moment où un intellectuel ou un artiste s'occupe ou s'intéresse aux footballeurs, il y a quelque chose de dégradant. Du moins, je l'ai ressenti à plusieurs reprises par des hautes personnalités du monde artistique. Ce qui, en fait, me concerne là-dedans, c'est que c'est une chorégraphie. Et essentiellement, de toute façon, tous les jeux au départ étaient symboliques. Alors, on peut l'envisager, le football, comme étant la quête de son unité, de sa totalité, par le biais du ballon. Et jusqu'à ce qu'un jour, je me rends compte qu'en fait, mon ballon, il ressemblait souvent à la lune. Ce qui fait que je me suis questionné, en me disant, mais est-ce que je chercherai la lune ? C'est une question que je me pose. Voilà, c'est dans ce cadre-là que se situent ces quelques œuvres, mais qu'on peut voir uniquement sur le plan chorégraphique, bien sûr.
C'est très difficile de décrire cette pièce parce que c'est comme un gros, gros plan sur la fleur, mais ça évoque des choses beaucoup plus charnelles. Mmh. Ça évoque aussi
c'est très
le corps féminin, oui, quoi, ou la pensée féminine dans ce qu'elle a de plus tentatrice et aussi... mais très riche, quoi. Et donc, c'est plein de lumière, quoi. On a une pensée jaune, une pensée bleu-mauve, et même la pensée bleu-mauve irradie de lumière, quoi. Et on aurait... Enfin, moi, je me dis qu'un homme aura envie de s'y perdre.
Et quand vous dites pensée, vous dites la fleur ou la réflexion ?
Ah ben là... Les deux, bien entendu.
Oui, c'est amusant. Quand en fait on parle de pensée, on ne sait jamais à quoi, de quoi on parle. S'il s'agit de la pensée ou de la fleur pensée, alors il y a moyen. J'ai d'ailleurs commencé tout un travail que je n'ai jamais réalisé avec toute une série d'expressions. J'ai replanté mes pensées, où as-tu mis ma pensée, etc. etc. C'est absolument fascinant.
Bah, d'ailleurs, tu as des... Dans tes écritures advenues, il y en a justement une qui parle de pensée ici.
Ah oui, c'est vrai, effectivement. Merci.
On la verra tout à l'heure.
Oui. Alors là, c'est le travail par deux couteaux.
La plage, l'enfance.
La plage, exactement. Effectivement, la plage de l'enfance. Parce qu'en fait, c'est dans mon enfance que j'allais sur la plage et que je découvrais ces couteaux qui me faisaient rêver par leur forme, leur couleur, leur matière, leur vibration.
C'était pendant la guerre ?
Oui, cinq. Non, un peu après.
Parce qu'on ne pouvait pas aller sur la plage pendant la guerre. La plage était minée.
Non, pendant la guerre, j'allais à Holn, chez un ami de mon père, agriculteur. Et c'est là que, vous l'avez peut-être lu dans un de mes écrits, j'ai en fait été un jour, j'avais 6-7 ans, fasciné par la robe d'une vache. Dans la mesure où, en fait, elle s'est associée au mois octobre. Et ce n'est que beaucoup plus tard, suite à ma lecture de textes de Borges, ça m'est revenu, cette relation-là, et que je l'ai alors développée dans des travaux, différents travaux.
Donc nous sommes sur les couteaux,
oui.
À la plage,
uh-huh.
Il faut les ramasser.
Oui.
C'était une monnaie d'échange pour acheter des fleurs ?
Oh non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Non. Deux choses totalement différentes. Totalement différentes, oui. Alors il y a là un autre travail. Qui part lui aussi d'un rêve. Alors je vais le reprendre tel qu'il était écrit. De façon, en fait, j'ai appelé ça l'ombre de l'ombre.
Cette série est née d'un rêve où j'assistais au dialogue entre des personnages réduits à leur ombre et l'ombre qu'ils projettent. Serions-nous des ombres de la lumière projetant une ombre bien réelle, celle-là, matérielle ? Platon n'est pas loin.
Vandeloise Rousseff à la Beuverie à Liège, jusqu'au 1er avril. Avec Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, Sylvie Cannon et Isabelle Neuret.
Donc en fait, il existe à présent une fondation de la province de Liège pour l'art et la culture, dont en fait on est les initiateurs. Alors le point de départ est le suivant. Lorsque j'étais à l'université, j'étais étudiant en histoire de l'art, j'ai été amené à visiter différents ateliers ou ce qui restait d'ateliers d'artistes décédés. Et dès l'époque, je vais donc...
Vous pensez à qui ?
Notamment Marcel Caron, parmi les plus importants. Et alors je me suis trouvé comme cela devant des œuvres qui étaient mises, entreposées dans des vieux garages, pour d'autres artistes dans des greniers, d'autres qui en fait disparaissaient corps et bien. Et de fait, les héritiers, soit... ne s'intéresse pas à l'œuvre du mari ou de l'épouse, enfin peu importe, soit ne savent qu'en faire. Et il faut bien dire que ce n'est pas simple de gérer ce type d'héritage. Et c'est dans ce cadre-là que depuis toujours, j'avais le souhait qu'une fondation puisse se créer qui aurait pour fin de sauvegarder tout un patrimoine qui, certes, est important par rapport à la personne qui a eu toute une aventure, mais aussi par rapport à la collectivité. Et c'est donc il y a peu de temps que finalement ce projet a trouvé son aboutissement par le biais de l'acceptation et de l'intérêt qu'apportait à cette initiative le député permanent Paul-Émile Motard.
Guy Vandeloise. Un mot, Isabelle Neuret, sur cette fondation.
cette exposition donc, rend hommage à Juliette Rousseff et Guy Vandeloise parce que c'est vraiment le couple qui est à l'initiative de cette fondation. Et évidemment, il a trouvé un écho auprès de Paul-Émile Motard, qui est le député président en charge de la culture de la province de Liège, et qui s'est senti évidemment tout de suite concerné par cette initiative. Et donc, cette fondation est en train de se mettre en place, j'ai envie de dire. Elle est vraiment en train de se construire, de s'inventer, de se créer pour le moment. Donc. Et sa vocation est évidemment de préserver le patrimoine artistique de la province de Liège, de lui apporter une valeur évidemment par l'étude qu'on peut en faire et une cohérence et pouvoir aussi montrer que la création liégeoise appartient à la création globale et peut s'inscrire dans notre histoire. Quoi.
Et donc seront dans cette fondation vos œuvres?
Oui.
Vos collections?
Oui, certainement. Oui,
vos biens immobiliers?
Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait, dans la mesure où là, c'est très peu dissociable, finalement, je crois. Et donc, je trouve important que le tout reste, lié, si vous voulez.
Si vous permettez, je vais lire les textes qui sont écrits par vous. Et accroché au mur. Quelle horreur que la vie, quelle merveille que la vie. La mort, c'est la vie. L'automne a ses fleurs, l'hiver aussi. Dansante d'amour, la lumière crée l'ombre. Ce matin, la neige est paresseuse. C'est. À chaque jour suffit sa croix. L'un, c'est l'autre. La vie continue, l'orage, les éclairs, la pluie battante, un merle chante, un autre lui répond. Et que rêvez-vous pour l'avenir de cette donation?
Je vais répondre parce que en fait, moi j'insiste beaucoup sur le fait que ça ne doit pas périr, rester dans un coin, il faut que ça vive, il faut d'abord qu'on montre les artistes et puis que ça ait une mission, je dirais, éducative quand même, qu'il y ait des conférences, qu'il y ait des rencontres, qu'il y ait des déplacements. Il faut que ça vive comme un jardin, quoi. Voilà.
Alors, les éditions de la province de Liège inaugurent avec votre ouvrage?
Non, certainement pas.
Le livre, c'est vraiment la somme de ces années de recherche également, de recherche personnelle dans la création, dans l'étude de l'art, et aussi le fait d'avoir été toujours en contact avec les étudiants.
Un ouvrage intitulé « Les voies de l'art »
Oui.
Avec ES
Oui.
Et pas X.
Non, les voies de l'art, c'est-à-dire les différentes directions qu'à mon sentiment, l'art peut prendre en fonction des hommes qui le pratiquent.
Sylvie Cannon.
Quand il écrivait la première mouture, donc ça fait quand même plusieurs années maintenant, il m'avait demandé de le lire, de lui faire un retour.
Donc en fait, j'envisage l'art non pas comme on le fait habituellement, c'est-à-dire sur un plan purement historique, mais sur le plan de l'aventure humaine. Et ce qui m'a, au bout d'un certain nombre d'années passées à enseigner l'histoire de l'art et l'esthétique à l'Académie de Liège, ce qui m'est apparu, c'est que finalement il y avait pour moi quatre grandes catégories, quatre grandes voies de l'art, à partir du moment où l'homme peut en fait tendre à se dire tel qu'il est véritablement. J'entends par là qu'il est clair que dans les époques, on va dire religieuses, quelle que soit la religion, la croyance, c'est-à-dire finalement de quelques 35 000 ans avant notre ère jusqu'à quelques 1400 ans après notre ère pour ce qui concerne l'Occident, l'Europe occidentale, l'art est essentiellement, à un moment de Grèce et de romantique près, est essentiellement tributaire d'une pensée religieuse. Autrement dit, l'homme n'a guère l'occasion de se dire dans ce qu'il est. À partir du moment où il le peut, donc tout cela démarrant effectivement en Grèce et dans la Rome antique, à partir du moment où il le peut, il va mettre en évidence ce qui le caractérise, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quatre voies apparaissent, me semble-t-il, ce que j'appelle l'idéisme, l'expressionnisme, le réalisme et le réalisme symbolique.
Mais moi, j'ai suivi les cours de Guy alors qu'il donnait encore...
Sylvie Cannon.
Ses cours du soir à l'académie, c'était absolument passionnant. D'autant que moi, je n'avais pas eu la chance, malgré mes études artistiques, d'avoir un bon cours d'histoire de l'art. Je n'avais jamais vraiment eu une vision approfondie et profondément... humaine dans toute l'ampleur de l'humanité. Et je crois que c'était ça. C'était aussi amené par lui, parce qu'il pratiquait aussi, parce qu'il avait aussi cette vision de l'intérieur de l'art qui lui permettait d'approcher les artistes.
Donc l'idéisme, ce sont des artistes qui sont en fait gérés par l'idée qu'ils se font du monde. Étant entendu que ces idées peuvent être évidemment très différentes les unes des autres, voire éventuellement totalement opposées. J'entends par là que Piero della Francesca peut être vu comme un idéisme, mais de l'harmonie. Alors que Louis David est un idéiste, mais son idéal étant révolutionnaire. Mondrian est en lui un idéal qui est en fait théosophique. Donc, ces artistes, pour moi, de toute façon, et quoi qu'il en soit, quelle que soit leur tendance, serait-elle opposée, se mettent dans une grande famille d'êtres qui ne semblent pas pouvoir sortir de leur point de vue, accepter quelque autre facette de l'existence. Et puis alors, vous avez bien sûr les expressionnistes. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus simple à exprimer, à signifier, ce sont tous les artistes qui sont en fait gérés essentiellement par leurs émotions, quelles qu'elles soient. Puis vous avez les réalistes qui tendent à rendre compte de la réalité telle qu'ils peuvent la percevoir dans l'époque dans laquelle ils se situent. Car il est évident que le réalisme de Courbet, par exemple, n'a strictement rien à voir en apparence avec le réalisme des cubistes, qui le sont cependant, puisqu'en fait, les cubistes tendent à rendre compte de l'entrée dans un univers marqué par la vitesse, marqué par la perception de l'espace-temps, ce qui forcément va modifier les formes de leur œuvre. Et puis alors, vous avez la quatrième voie que j'appelle le réalisme symbolique. Alors, le réalisme symbolique est également une forme d'art qui apparaît, à mon sentiment, très loin dans le temps, et qui est en fait préfiguré par les artistes du paléolithique, qui en fait se vivent forcément, eux, en concordance avec tous les constituants de la nature depuis leur conception jusqu'à leur mort, mais sans avoir la conscience de l'être. Ces artistes préfigurent donc ce réalisme symbolique que l'on va retrouver à certains moments en Grèce, que l'on va retrouver alors à partir du gothique, c'est-à-dire au moment où Van Eyck, pour ne pas le citer, va en fait voir dans la réalité même du monde signifiée de la façon la plus précise qui soit, son au-delà. Donc on a là la relation regarder-voir. Étant entendu que très normalement, dans ce cadre-là, Van Eyck dira « j'ai fait ce que j'ai pu, comme je pouvais ». J'ai fait du mieux que j'ai pu pour représenter la divinité à travers sa création. Et puis alors, ce réalisme symbolique se retrouvera sous des formes très diverses, jusqu'à ce que j'appelle la nouvelle Renaissance. La nouvelle Renaissance qui pour moi commence avec Manet vers 1860 et qui perdure jusqu'à la fin de Dada jusqu'à 1920, une période qui voit l'art se modifier formellement, pas de plus en plus précisément, par le biais des perceptions nouvelles que l'on a de la réalité humaine et cosmique. Et donc, à ce moment-là, le réalisme symbolique qui, me semble-t-il, était essentiellement dit par des artistes qui, quand ils éprouvent un quelque autre sentiment que leur relation à la réalité, préfèrent ne pas peindre. Par contre, à partir du réalisme symbolique, à partir de la nouvelle Renaissance, voulais-je dire, des artistes comme Cézanne, comme Monet, vont en fait se servir de la peinture auquel ils accordent la plus grande importance dans ses constituants, le moyen de se dire dans leur évolution. J'entends par là que quand en fait Monet, Cézanne, pour prendre les premiers artistes qui sont dans cette voie-là, vivent un rapport avec quelque élément de la nature que ce soit, il leur faudra un certain temps pour en rendre compte. Et ce temps-là fait que, automatiquement, des données plus personnelles, qui sont significatives finalement d'errance, si vous voulez, psychologique, dirons-nous, vont en fait intervenir. Et à ce moment-là, le réalisme symbolique, qui certes est de relation du regarder dans le voir, va être en même temps le moyen qu'ils auront pour se percevoir dans leur évolution, dans leurs erreurs, si vous voulez. Et donc, d'en déduire une possibilité de meilleure perception d'eux-mêmes. Avec, à l'époque dadaïste, deux artistes qui m'apparaissent tout à fait essentiels et qui, ne sont pas uniquement dadaïstes, mais en tous les cas ont été marqués par le mouvement, Man Ray et Marcel Duchamp.
Sylvie Cannon.
Et puis, il avait une vision extrêmement personnelle de l'histoire de l'art qu'il a développée. Je suppose qu'on va retrouver dans son ouvrage.
D'ailleurs, Marcel Duchamp, qui dans ce cadre-là inventera, si je puis dire, l'école érotique. L'école érotique, comme il y a une école impressionniste, comme il y a une école fauve, mais ici, évidemment, l'école érotique étant justement une école qui dit cette relation nécessaire entre les éléments à la fois opposés et complémentaires du monde. Voilà, c'est dans ce cadre-là que ce livre se situe, qui tend à montrer, ce qui pour moi est important, qu'en fait, ce qu'on ignore souvent, ce qu'on laisse de côté, la peinture comme la sculpture comme la gravure sont des écritures à lire, à tendre à lire, pour en fait en percevoir le prolongement philosophique.
Je pense que c'est aussi avec lui, avec Juliette, mais avec lui d'abord dans ses cours, que j'ai entendu quelqu'un, j'étais encore jeune, qui mettait des mots sur ce que je pouvais ressentir dans la création, et notamment ce qu'il appelle l'art de communion, et cette possibilité de trouver à travers la création et le regard sur le réel une manière de toucher à quelque chose de plus grand, de plus vaste, de l'invisible, de ce qu'ils appellent tous les deux l'invisible ou le mystère de la vie ou du cosmos. Et
je vais rencontrer
Sylvie
Cannon. Qui est-elle à vos yeux?
Ah, Sylvie Cannon, c'est une artiste que nous estimons beaucoup, qui réalise lentement, difficilement, un travail qui est d'introspection de son être le plus profond.
Et je pense que c'est, à part peut-être dans d'autres lectures, mais c'est quand même avec Guy et Juliette que c'est un petit socle comme ça pour continuer.
À partir des contes de fées, souvent, et à partir de la mythologie.
Oui.
Et elle part de ces deux sources-là pour aller à sa rencontre, quoi. Et c'est une fille qui, au départ, ne faisait que de très, très petites choses. Et je me souviens qu'elle était venue à un de mes stages. Elle me dit, mais j'en ai assez de travailler petit, parce qu'elle me voyait travailler grand. Et elle dit, je voudrais bien aussi faire des choses plus grandes. Et alors, on travaillait sur la main, je me souviens. Et elle veut faire une grande main. Et puis, elle n'a pas osé. Et puis, elle est allée se remettre à faire ses petites choses. Et alors, je lui ai dit, écoute, Sylvie, si tu ne restes pas sur ta grande feuille, moi, je ne m'occupe plus jamais de toi. Tu fais ce que tu veux, tu ne viens plus jamais ici. Et ça l'a libérée. Elle a été obligée de se libérer. Voilà.
Vandeloise Rousseff à la Beuverie à Liège, jusqu'au 1er avril. Avec Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, Sylvie Cannon et Isabelle Neret. Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.